Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+ ou sur radioallianceplus.fr. Je suis le docteur Jacques Jaume. Je produis et j'anime l'émission que vous écoutez qui se nomme « Votre santé, un trésor ». Je vous propose aujourd'hui de nous rencontrer en Camargue, dans la plus grande ville de la Camargue, Arles. Arles, où de février 1888 à mai 1989, Vincent Van Gogh va vivre et surtout peindre. Le 20 février 1888, il s'installe à Arles, dans la vieille ville, à l'intérieur des remparts, à l'hôtel-restaurant Carrel, aux 30 rues de la Cavalerie. C'était à l'époque le quartier des Maisons Closes. Il y loge avec compagnon le peintre danois Christian Mourier Petersen. Il loue également une partie de la Maison Jaune pour en faire son atelier. Quelques jours après, il loge au café de la gare 30, place Lamartine, et s'installe ensuite à partir du 17 septembre dans la Maison Jaune, juste à côté, détruite lors du bombardement allié d'Arles du 25 juillet 1944. À Arles, il rencontre et découvre la lumière de Camargue. Dès le 22 février 1988, il commence sa production arlésienne. Il parcourt à pied la région. Au début du mois de juin 1888, ayant reçu un billet de 100 francs de son frère Théo, il se rend en diligence au Sainte-Marie de la Mer pour un séjour de 5 jours. Il y peint la barque Amitié et le village regroupé autour de l'église fortifiée. Le 23 décembre 1888, à la suite d'une dispute plus violente que les autres avec Gauguin, Van Gogh est retrouvé dans son lit avec l'oreille gauche tranchée. Pour évoquer Van Gogh, nous recevons aujourd'hui M. Philippe Reig. Bonjour à vous, Philippe.
Mais le bonjour.
Alors, Philippe, vous êtes docteur en études occitanes depuis 2022. Votre doctorat est le fruit d'une passion et d'une reconversion. Pouvez-vous nous en parler, mieux vous présenter, s'il vous plaît?
Oui, alors quand je suis rentré au collège, je vivais au pied du Luberon. Et je vivais avec les grands-parents de ma belle-mère. Autrement dit, pour moi, c'était mes arrière-grands-parents.
Quoi. Oui.
Et je me suis dit, en écoutant le grand-père, puisque la grand-mère était érudite, elle parlait français provençal, mais elle avait plaisir à employer le français, le grand-père, lui, s'exprimait qu'en provençal. Et il me disait beaucoup de sottises, comme il s'amusait un petit peu avec le jeune que j'étais.
Ouais.
Mais ces mots me sont restés dans la tête, ces phrases me sont restées. Alors ça, c'est étonnant, parce que je n'ai jamais fait d'effort pour les retenir. Et je me suis dit, intérieurement, un jour j'apprendrai cette langue, mais sans me poser de défi.
Alors c'était du provençal, c'était même pas toi, c'était du provençal.
C'était du provençal. C'était du provençal, oui, on peut dire du provençal, puisque la langue elle était malmenée, mais de son époque, il parlait le provençal. Et les années ont passé, et je ne me suis jamais dit, tiens, bientôt je vais apprendre le provençal. Je ne me suis pas fait de défi, pas fait de Paris, d'escoumès, comme on dit en provençal. Et quand je suis arrivé à la retraite, j'ai commencé l'apprentissage du provençal dans une école associative à Manduel, où je dois le dire, très vite ennuyé.
Bon, alors vous êtes retraité de... Qu'est-ce que vous faisiez avant le provençal?
Alors, je suis ingénieur en robotique, en automatisme,
oui.
Et j'ai travaillé à la régie Renault.
Un érudit de l'ingénierie.
Oui, en fait, plutôt mathématicien. Alors, donc, par rapport aux lettres, j'étais plutôt dans les mathématiques.
Donc, des mathématiques, vous êtes passé à la langage, à la littérature,
oui,
au provençal.
Oui. Alors, j'avais des prédispositions pour la littérature j'étais au collège.
Donc, alors, dans cette association de provençal, vous ennuyez?
Ben oui, j'ai vite plafonné, bon, puis je commençais à corriger le professeur, enfin c'était pas très intéressant. Alors je suis allé au CADREF à Nîmes avec la majorale Marie-Noël Dupuis, là c'était d'un niveau plus relevé, mais effectivement les cours étaient diffus, un coup on faisait ci, un coup on faisait ça. Moi je ne savais pas où me situer dans tout cet espace, je ne savais pas où ça commençait, où ça s'arrêtait.
Vous n'aviez pas de ligne conductrice, oui.
Non. Alors j'en ai parlé à Marie-Noël, à la majorale, et j'ai dit, voilà Marie-Noël, je voudrais rentrer à la fac, parce qu'elle m'a dit, écoute, je te connais, si tu veux y aller, vas-y, libère-toi du cadre F et vas-y. Donc je me suis renseigné, puis effectivement, ça a été possible, parce qu'en Provence, c'était impossible déjà. J'avais appelé M. Moron, qui m'avait dit, non, c'est pas possible. Enfin,
quand vous dites en Provence, c'est-à-dire...
Alors en Provence, c'est à Aix-Marseille.
Aix-Marseille, c'est la fin d'Aix-Marseille.
Voilà, parce qu'Avignon, c'était fini depuis longtemps. Nice.
Il n'y avait plus de Provençal à Avignon.
Non, pas du tout.
Donc le Provençal, c'est Aix-Marseille.
C'était Aix-Marseille, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de parcours licence, master, doctorat en Provence. C'est terminé, il n'y a plus que Marseille, il n'y a plus que Montpellier et Toulouse.
D'accord, c'est donc c'est pour ça que vous vous dirigez vers Montpellier.
Je me suis dirigé à Montpellier. Et là, je suis tombé sur une équipe de professeurs, bon, autant que je peux en juger, très sympa, très doué.
Vous avez un doctorat quand même, donc vous pouvez juger vos maîtres et vos pères.
Tout à fait. Mais je sais devant qui je dois baisser les yeux. Ça ne me gêne pas d'ailleurs. Mais ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. Parce que j'ai pris le train très tard. Mais bon, c'est pour ça que je voulais pédaler un peu plus vite pour pouvoir défendre efficacement ce que j'aimais. C'était la cause provençale, la langue, la littérature et les traditions. Donc j'ai un peu payé le prix pour ça, sans souffrir. Et j'étais parti pour faire une licence. Et puis voilà, 17,5 de moyenne.
Ah ben c'est bien.
Le professeur m'a dit, écoute, fais un master, 2 ans de plus. Bon, j'ai dit, ok, c'est vrai.
Et 3 ans qu'à la retraite, vous aviez le
voilà,
temps.
Non, j'étais déjà pas mal occupé. Mais bon, j'ai dit, allez, je prends sur moi. Et au moment de choisir les sujets, j'avais dit, mais qu'est-ce que tu prends comme sujet? Ben, j'ai dit, écoute, je vais faire les Essanges épistolaires de Galtier avec celui d'André Peyre. Et puis après, je ferai l'étude de son œuvre. Il me dit, non, ça, tu le gardes pour la thèse. À moi, en sortie de licence, j'ai dit, moi, une thèse, c'est pas possible, j'en ai lu des thèses, j'ai vraiment pas la carrure pour faire une thèse. Et après 2 ans de master, je me suis dit, pourquoi pas, je me suis relevé le défi.
Et votre mémoire de master, c'était quoi?
Comment?
Votre mémoire de
alors,
master.
Alors, c'était sur Charles Galtier et les échanges épistolaires qu'il d'accord. a entretenus avec celui d'André Pays. Ils ont échangé 765 lettres. Et donc, du coup, c'est l'étude de ces lettres était très instructive,
ouais,
parce qu'ils avaient des échanges très, très personnels. Donc j'ai enlevé tout ce qui ne me regardait pas. Mais
et après,
après
vous avez fait votre doctorat. Donc,
voilà,
sur...
Et après, j'ai fait mon doctorat sur Charles Galtier.
Ouais.
Mais là, j'ai examiné toute d'accord. l'œuvre de l'ethnologie à la littérature.
Alors, en tant que docteur... alors, le titre, c'est quoi? Docteur en études occitanes?
Alors, on dit docteur en lettres occitanes, mais docteur en lettres tout court, ça n'existe plus depuis 1994.
Là, vous êtes toujours actif au niveau de la faculté?
Oui, j'appartiens au réseau qui s'appelle un grand R, SO.
Donc, il faut savoir qu'à Montpellier, il y a un département de linguistique provençale qui est performant, complet,
oui.
avec, vous m'aviez dit, combien de spécialités, enfin de disciplines?
Alors il y a toutes les langues anciennes et modernes,
ouais.
Notamment dans ce département occitan, bien là il y a toutes les disciplines qu'on peut avoir dans une matière, c'est-à-dire l'étude du médiéval, l'histoire, la grammatique, enfin la grammaire, la littérature bien sûr,
ouais, ça, oui. c'est...
Il y a l'étude des petites provinces comme le Val d'Aran, etc., bon, on va d'accord. commencer à marcher. C'est très vaste.
Et alors, bon, quand Van Gogh était à Arles, on parlait le provençal. Alors...
Oui, tout à fait.
Voilà.
Tout à fait.
Alors, qui était Van Gogh? Ses origines, où il est né, quand il...
Alors, Van Gogh est né le 30 mars 1853 à Groot-Zundert, aux Pays-Bas.
Là, c'est pas provençal.
Comment?
C'est pas provençal.
C'est pas provençal du tout, ça, Groot-Zundert. On a du mal à le provençaliser. Et il est décédé le 27 juillet, pour faire court, là, le 27 juillet 1890. Bon, il s'est suicidé par arme à feu dans un champ de blé. Qu'il aimait tant, d'ailleurs, qu'il aimait bien épanne. Et il est mort 2 jours après, dans les bras de son frère Théo, qui s'est beaucoup occupé de lui.
Donc il est resté pendant 2 jours blessé,
oui, tout à fait.
Mortellement, enfin, puisqu'il
tout à fait.
Est... Donc
tout à
2 jours
fait.
De souffrance et de
deux,
calvaire.
2 jours de souffrance, oui, d'agonie. Ah, ouais. Oui, tout à fait.
Et parlez-nous un peu plus de Van Gogh.
Alors, au sujet de son enfance, déjà, on peut dire que sa famille était de conditions très modestes. Il était installé au cœur du Brabant, une province belge, au milieu de gens besogneux. C'était dans une région où se succèdent des tourbières marécageuses, avec des landes désolées, de la campagne buissonneuse. Tout ça sous un ciel très bas, gris bien sûr, des terres noires, source de tristesse et un endroit où il était bien difficile pour un enfant livré à lui-même de s'épanouir.
Et comme adolescent, qu'est-ce qu'il était comme adolescent?
Alors après, comme adolescent, il était déjà perturbé.
Ouais.
Parce qu'il avait perdu confiance en lui, c'est-à-dire qu'une première fois, alors il voulait qu'on l'appelle Vincent,
ouais.
parce qu'il a eu un frère aîné, il était le second de la fratrie, il a eu un frère aîné qui s'appelait Vincent Willem, qui est décédé,
ouais.
et donc il est devenu l'aîné
ouais.
de
il
cette fratrie de 6 enfants.
Frère, ouais.
Et
ça
puis bon,
cette perturbation de cette personnalité qui est un génie de la peinture, qui nous intéresse dans notre émission sur la santé. Donc c'est un adolescent perturbé qui a perdu un frère.
Qui a perdu un frère.
Donc, un deuil important.
Oui, son père était pasteur, très austère, mais juste, équitable. C'était pas... Il était très,
donc,
très bien.
Van Gogh était protestant.
Oui, tout à fait.
Ouais.
Et donc, il s'est donné... autant il a perdu confiance en lui, mais le mysticisme lui a ouvert tout grand ses portes, et peut-être pas pour son bien.
C'est quoi le mysticisme de Van Gogh?
Alors, c'est tombé dans une... dans un doute de soi, dans des explications toujours un peu métaphysiques des choses. Pour lui, rien n'était simple. Et c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il a été très heureux. Il a essayé. Alors, grâce à son père, il trouve une place de commis à La Haye, dans une galerie d'art. Mais il en est cruellement chassé par la fille de sa logeuse. Alors, je ne sais pas si c'est des questions de jalousie ou autre, parce qu'il avait un caractère quand même d'entrée de jeu qui était un peu sévère. Mais il a été blessé au plus profond de lui-même, à tel point qu'il entre de plein pied dans le monde des exclus et des marginaux.
Oui, parce qu'on ne parle jamais de Van Gogh et des femmes.
Alors justement, à partir de là, il a cherché d'autres routes susceptibles de l'orienter vers le bonheur.
Oui.
Mais malheureusement, il a connu que des routes bordées d'épines, de tromperies, de misère.
Mmh.
Et comme Verlaine l'a dit de Rimbaud, Vincent Van Gogh devient un homme aux semelles de vent.
Mmh.
Il bouge, il voyage. Et peut-être le jeune Vincent fut-il pris comme Rimbaud d'un brin de folie, très tôt. Alors, je ne vous dirai pas ce que c'est la folie, vous le savez mieux que moi.
Je ne sais pas où ça commence, où ça s'arrête. Je ne sais pas ce que c'est que la folie.
Je suis
interrogé par la folie, je la vois, je la côtoie, mais je ne sais pas. Parce qu'il y a des folies, il y a des pathologies.
Oui, oui.
Mais...
Alors, il était quand même très perturbé. Et il veut ensuite devenir pasteur. Peut-être pour suivre les traces de son père, je ne sais pas. Mais il avait en lui une générosité sans limite. Ça, il avait pour lui. S'il tombait sur quelqu'un avec qui s'accordait, il devenait très généreux. Il aimait les gens. C'est un paradoxe de Van Gogh. Mais sa hiérarchie, quand il a voulu devenir pasteur, l'a vu comme un agitateur.
Oui.
Enfin, comme un instigateur spirituel.
Est-ce qu'il a fait des études de théologie ?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Aucune. D'ailleurs, les études, il n'a jamais été ami avec les études.
Oui.
Même général.
Contrairement à vous.
Oui, enfin, bon, après, c'est la curiosité. Moi, je suis quand même dans une autre époque avec notre esprit.
Ouais.
Et donc, il a été jugé comme un instigateur spirituel, mais en mauvaise part.
Oui.
Pas comme quelqu'un de positif, non, il a été mal jugé. Et une fois de plus, à cause d'un zèle vraiment, vraiment fanatique, il est chassé.
Et encore une fois, chassé.
Voilà, ça a marqué sa vie. Donc, il s'oriente vers l'art pictural, la peinture. Il a 29 ans quand il retourne à La Haye. Et il se rapproche d'une fille mère qui loue son corps et qui lui sert de modèle. Cette liaison n'a pas duré, parce qu'il faut avoir le souci de gagner le pain quotidien.
Est-ce que vous dites qu'elle loue son corps pour le peindre ou pour le consommer, si vous me permettez
Pour le consommer, voilà.
Si vous me permettez pour cette expression, d'accord.
Et lui, il s'est un peu épris d'elle. Bon, il était fragile quand même, je pense qu'il se serait épris de quiconque, quoi. Alors il se met à peindre ce qu'il est. Il peint des gens comme lui, des esclaves de la société, des gens pauvres, des travailleurs. Et de suite, ces tableaux se montrent émouvants, à l'image du premier en 1885, Les mangeurs de pommes de terre.
Oui.
C'est un tableau qu'il faut voir. Pour le décrire, c'est très difficile. Je pourrais dire qu'il peint entre chien et loup, voire dans le ténébrisme, dans les ténèbres. Il joue, d'entrée de jeu, il joue sur la lumière, il dompte la lumière et le contraste. Et on peut dire que ses premiers tableaux font penser à ceux de Louis Finson, qui a vécu à cheval sur le 16 et 17e siècle, et qui s'inspirait lui-même du Caravage. Je ne sais pas si vous connaissez le tableau Caravage, c'est très sombre.
C'est très très sombre.
Et sa façon de...
Mais la vie du Caravage est sombre quand même.
Oui, sa vie aussi est courte d'ailleurs, comme celle de Van Gogh d'ailleurs.
Et mouvementée et courte.
Oui. Et sa façon de traduire le destin de ses semblables relève d'un travail, on va dire, d'un apôtre fidèle, on peut dire même, et d'un prophète. D'un prophète parce qu'il savait que les choses ne changeraient pas le lendemain.
Et alors, qu'est-ce qui le fait descendre en Provence ? La lumière ?
La lumière et puis le désabusement, c'est-à-dire les échecs successifs qu'il a subis.
Il fuit, quoi. Enfin, il fuit, il va ailleurs.
C'est une fuite en avant. En 1885, son père meurt, d'ailleurs, et ça a beaucoup touché Vincent.
C'est 3 ans avant qu'il vienne, vienne à Arles.
Voilà, et il aimait beaucoup qu'on l'appelle Vincent. Je ne sais pas si c'était... Ce nom de Van Gogh lui paraissait trop étranger.
Ouais, ouais.
Il voulait un petit peu rompre avec ses origines.
Les origines.
Il voulait s'en libérer. Et il va à Paris, se rapproche de son frère Théo, qui dirige une galerie d'art. Son frère Théo était quand même beaucoup plus posé. Et il rentre dans le milieu des artistes, aux côtés de Picasso et beaucoup d'autres artistes du moment. Mais là, pareil, les disputes, la jalousie, et puis il faut le dire, la consommation d'absinthe et de fumette...
Ouais.
Eh bien, ça n'a pas arrangé son moral.
Il était toxicomane et aussi
alcoolique. Léger, mais quand même...
Et Gauguin, il le rencontre où ?
Arles.
C'est une rencontre. Donc, devant ce malheur, tout ça, en fait, il en a assez de ce monde du Nord, si vous me permettez.
Oui, oui.
de ce monde d'origine, de Paris, avec ses intrigues, ses jalousies. Il est peintre, il se soigne par la peinture. On le voit dans ses toiles, vous le dites, et on le voit. Et donc, il décide d'aller au bout du monde, c'est-à-dire en Provence.
Oui.
Et là, il découvre la lumière. Je vous propose une trêve musicale avec Camargue, Ustramental, Rosendo Chico, The Gypsy. Vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission produite et animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. Nous recevons aujourd'hui Philippe Reille, docteur en études occitanes, qui évoque avec nous Vincent Van Gogh. Quel a été exactement le rôle de son frère, de sa belle-sœur, dans le rayonnement de son art?
Alors, ils ont été très proches de lui, tous les deux. D'ailleurs, il a fait des autoportraits de sa sœur.
On ne parle pas beaucoup de sa belle-sœur, pourtant j'ai appris qu'elle s'est beaucoup occupée d'elle, et surtout la diffusion de son œuvre.
Oui, c'est-à-dire que Théo et elle ont formé un binôme, si on peut dire, qui s'est beaucoup occupé de Vincent. Mais c'est surtout son frère qui a marqué l'aidant de façon financière. Il a beaucoup aidé. Et c'est vrai que quand il arrive à Arles le 20 février 88, comme vous l'avez dit, il enchaîne de suite la production un petit peu effrénée de tableaux. Évidemment, vous l'avez dit, la lumière, il l'apprivoise. Il apprivoise, on le voit dans tous ses tableaux, il joue beaucoup sur la lumière. Et puis, de par ses origines un petit peu, je dirais, agricoles, il s'intéresse au champ, au travail du champ, aux gens qui travaillent dans les champs. Il est peint quand ils font leur sieste contre une meule de foin, etc. Il a beaucoup d'attirance pour ça.
Ce qu'on retient chez Van Gogh, moi je trouve, bien évidemment c'est les couleurs et la lumière, mais ça tout le monde le sait, mais ce sont les gens en fait. Il n'y en a pas beaucoup sur ces tableaux. Oui. Mais ce sont les gens.
Oui, alors il y en a plus qu'on croit dans son œuvre,
oui,
parce qu'ils
sont pas au premier plan, quoi.
Il avait une œuvre un peu tripartite. Il avait ce qu'il peignait au début, des scènes de la vie paysanne, les portraits. Oui. Alors il a fait énormément de portraits d'amis, marchés à l'amitié. Il ne vendait rien, hein. Il n'a rien vendu.
Justement, une question qui me vient, est-ce que son frère l'a pas un peu exploité?
Non, pas du tout. Son frère était là quand il avait besoin de lui. Mais quand il est passé par Paris, il n'a pas cherché à l'exposer, ni plus ni moins. Et Van Gogh, peu à peu, doit surmonter des crises de dépression, d'épilepsie, de découragement, d'hallucination, d'abattement, de mélancolie. C'est un ensemble de choses et auquel il faut ajouter le sadisme et le sadomasochisme.
Parlez-nous du sadisme et du masochisme.
Alors, c'était un petit peu la face noire de Van Gogh. Je ne dis pas qu'il... Enfin, oui, quelque part, il aimait la souffrance, il aimait un peu souffrir. Il était quand même de ce point de vue-là.
Mais est-ce qu'on sait qu'il y a eu des relations sexuelles sadomasochistes?
Alors, non. Il s'est accoquiné d'une péripatéticienne, si vous permettez l'expression, à Arles. Ce qui expliquerait son oreille coupée, mais enfin, ça serait un peu long d'expliquer tout ça. Mais à tel point, il se rend tellement compte de son état. Il avait une extrême lucidité que c'est lui-même qui demande son internement à Saint-Paul-de-Mauzol, cet hospice.
Alors Saint-Paul-de-Mauzol, dites-nous.
Alors Saint-Paul-de-Mauzol, c'est un hôpital. Alors ça a un passé très très complet. Ça a été successivement un hôpital tout simple, mais ça a été aussi une prison pendant la guerre.
Enfin, c'est à Arles.
C'est à Saint-Rémy-de-Provence.
Saint-Rémy-de-Provence, pardon.
Près des Antiques. Contre les Antiques.
Quand je disais Arles, je vais en passer Saint-Rémy-de-Provence.
Donc là, il demande son arrivée, il demande son internement.
C'est lui qui demande. Et il s'adresse à quel médecin alors?
Alors, au médecin qui gérait l'établissement de l'époque, enfin aux gens qui voulaient bien l'écouter, puis le bruit s'est fait, qui voulait être interné, puis qui nécessitait un internement, ce qui s'est passé. C'était, s'il le demandait, c'est qu'il en avait besoin, parce qu'à l'époque, Saint-Paul-de-Mauzol, ce n'était pas une maison de santé. Hein.
Alors, il faut bien dire, là, 30 secondes, que la psychiatrie de l'époque n'a rien à voir avec la psychiatrie d'aujourd'hui, ou enfin plutôt d'hier, parce que la psychiatrie d'aujourd'hui est bien malade, la psychiatrie, je veux dire, il n'y avait pas de psychiatrie, ça n'existait pas, c'était des aliénés, c'est-à-dire qu'en fait on les enfermait, pour ne pas nuire, on les considérait comme des
malades incurables, pratiquement.
Voilà, ils étaient incurables, donc avec des thérapeutiques violentes, etc. Donc s'il a demandé de rentrer, d'être isolé de la société, d'être soigné, c'est qu'il devait avoir une souffrance énorme.
Énorme, intérieur énorme. Mais ça s'est cultivé au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des décennies. Et il est rentré dans un circuit irréversible. Et là, justement, il se jette à corps et à cri dans la peinture. Alors les tournesols, les nuits provençales, les oliviers, les Sainte-Marie de la Mer, et puis les rues d'Arles, etc. Donc toute une thématique. Et dans ces tableaux, il n'est pas compliqué de décoder ses tourments. Quand on voit son autoportrait, avec ce fond en bleu ciel, avec du bleu foncé en rond, ça traduit un petit peu son état d'esprit, ce qui se passait en lui. Les troncs d'olivier sont tordus, sont très torts, comme s'ils imploraient le ciel.
Est-ce que vous pensez que sa pathologie ou ses pathologies ont explosé à Arles, en Provence?
Oui, parce qu'il est allé, parce que tout ça allait en s'aggravant.
Et oui.
Donc effectivement, à Arles, ça s'est exacerbé. Et c'est vrai qu'il a été pris. Alors on dit de folie, mais c'est un peu un raccourci,
alors,
je pense.
Oui, alors justement, bon, vous qui connaissez bien la personne de Van Gogh, est-ce qu'on a fait un diagnostic sur ces pathologies?
Aujourd'hui encore, on essaie d'en faire. Hein.
Mmh. Aujourd'hui encore. C'est un problème intéressant qui m'intéresse en tant que médecin, c'est-à-dire qu'on essaie de faire des diagnostics actuels dans des époques ultérieures. Donc moi, j'ai travaillé sur Mozart, etc. En fait, il y a de pluripathologies. C'est-à-dire que lui avait certainement une pathologie psychiatrique lourde, de type psychotique, mais surajoutée à une toxicomanie, un alcoolisme, à l'absinthe, hein, et des comportements... est-ce qu'il avait une maladie vénérienne ou pas? Parce qu'on ne le sait pas.
Pas qu'on sache.
Voilà, mais parce qu'il y a,
pas qu'on sache, mais enfin, à cette époque-là...
À cette époque, il y a énormément de gens qui...
Bien sûr.
Et ce sont des pathologies chroniques. C'est-à-dire la syphilis est une pathologie chronique qui va durer des années. Et donc, c'est une pluripathologie. Et je pense que Van Gogh en est... Donc, quand on cherche un diagnostic, évidemment, on se trompe.
Aujourd'hui encore, il y a des recherches. Ça a tellement, comme vous l'avez dit, ça a tellement été pluridirectionnel qu'il est difficile d'établir une cause. Il y avait l'ambiance familiale qui était très austère, le fait qu'il se soit senti rejeté très vite, et ça l'a pénétré en profondeur, et du coup, il n'est jamais revenu en arrière. Alors son œuvre, comme je vous le disais, il y a trois périodes, les tableaux qui représentent le quotidien des gens humbles, pauvres, on peut dire, à la limite de la marge de la société même. On retrouve Van Gogh dans ses tableaux d'ailleurs, le travail sur les machines, le tisserand, dans les champs, les planteurs de pommes de terre, etc. Et après, il y a des portraits, et là, pareil, il s'agit de rencontres, de connaissances, d'amis, des personnes dans lesquelles Van Gogh se reconnaît. Mmh. Un peu comme lui, mais en marge de la société. Et il en peint tout au long de sa vie, finalement, même à Arles. Mmh. Arles, il a fait beaucoup de portraits. Et pour finir, à l'époque, son internement, alors là, c'était la nature. Une explosion avec la nature, comme on l'a dit, la nuit, les tournesols, etc. Des tableaux admirables. Et tout cela, eh bien, il le fait pendant son petit séjour à Arles, on va dire. Parce que finalement...
Oui, il reste peu, quand même.
À Saint-Paul-de-Mozolles, il y est resté 15 mois, pas plus. Mmh. Et c'est après ça, après Saint-Paul-de-Mozolles, qu'il décide de rejoindre dans l'Oise son frère. Mmh. Et c'est là que tout se...
Alors, deux mois après... Pour argumenter ce que je disais tout à l'heure, on peut signaler qu'il y a plus de 150 psychiatres qui ont tenté d'identifier sa pathologie. Et quelques 30 diagnostics différents qui ont été posés. Oui. Et donc c'est ce que je disais, ce sont des pathologies qui s'intéressent. Nous, on le voit beaucoup moins actuellement, bien qu'on le voit, mais on passe à côté. Mais à l'époque, c'était, si vous me permettez l'expression, on est courante. Donc, il remonte voir son frère, et là, sa mort est proche.
Sa mort est proche. Deux mois après, eh bien, il va dans un champ de blé, et il se tire un coup d'arme à feu. Et là, comme on l'a dit, pendant deux jours, il agonise, et il meurt dans les bras de son frère. Mais c'est vrai que son frère n'a jamais bien cherché à vendre les tableaux de Vincent, ce qui est un paradoxe. Et Vincent avait des moments de lucidité extrême parce qu'il a dit « si je vais valoir quelque chose demain, sous-entendu après ma mort,
oui.
Je vaux quelque chose aujourd'hui. »
Bien sûr.
Parce que le blé, c'est du blé depuis le début, même si certains Parisiens appellent ça de l'herbe. Autrement dit, il voulait dire qu'il n'avait pas la reconnaissance.
Ce qu'il faut bien dire, c'est qu'en pathologie mentale, il n'y a pas d'effacement de la conscience et de la reconnaissance. Alors, il y a des phases.
Oui.
Si vous avez quelqu'un qui a des crises psychotiques, comme dans la schizophrénie, il y a des moments de lucidité complète où les gens se rendent bien compte que... voilà, moi j'ai été l'élève du docteur Anfouks qui a connu, justement, qui a été voir le médecin qui a soigné Van Gogh.
Van Gogh.
Donc, il m'en a beaucoup parlé, pour ça que Van Gogh, c'est un peu ma jeunesse. Eh bien, il y a des phases normales.
Hein, oui,
donc, les gens ne sont pas tout le temps malades, ils sont malades par intermittence.
Oui,
c'est une maladie chronique, mais par intermittence.
On parle de crise.
Voilà, donc lui, il a des visions. Et alors, parlez-nous de la. Vous avez une théorie sur son oreille coupée.
Oui, alors, son oreille coupée, j'ai lu le journal, un journal arlésien, qui expliquait un petit peu ce qui s'était passé. En fait, vous savez que quand un veau naît, on lui fait une escoussure à l'oreille, qui est un signe d'appartenance, c'est-à-dire que ça traduit, c'est l'escoussure du manadier, donc on sait que ce veau, d'après son escoussure, il appartient à tel ou tel manadier. Et Vincent Van Gogh était amoureux de cette femme, cette fille de joie, on peut dire, et pour marquer son appartenance à cette fille de joie, à l'issue d'une dispute avec Gauguin quand même, il se coupe l'oreille. et il voulait dédier cette blessure à cette femme.
C'est un don, un sacrifice.
Un sacrifice. Donc il y avait un peu une trace de masochisme derrière aussi.
Oui, mais un sacrifice, ce n'est pas forcément du masochisme, oui, parce que la douleur est offerte.
Oui.
Eh bien, merci à vous, docteur Philippe Rey, pour vos éclaircissements et tout ce que vous nous avez appris sur Vincent Van Gogh. Je remercie Louis à la technique et Chanel au visuel. Je vous renouvelle mon annonce sur l'adhésion à Radio Alliance Plus, à laquelle vous pouvez souscrire pour que notre radio puisse vivre. Merci d'avance. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de votre santé, un trésor sur Radio Alliance Plus, sur 103.2 FM. À bientôt, je reste votre bien dévoué.